Radio Campus Lille, il est un peu plus de 17h. Pour cette séquence d'émission, eh bien, nous allons parler du festival Cité Philo. C'est l'épisode 1 de 2 qui sont consacrés donc à Cité Philo. La prochaine aura lieu la semaine prochaine, de 17h aussi, à partir de 17h, sur cette même antenne dans l'émission Quoi de Neuf. Donc pour cette première émission consacrée à ce festival qui se tiendra donc du 1er au 29 novembre en métropole lilloise, puis en décembre à Amiens et au printemps 2025 dans l'Oise, j'ai invité Thibaut Audevard et Karine Boquet. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors peut-être qu'on peut préciser, vous êtes venu en tant que professeur de philosophie, en tant que philosophe ou en tant que porte-parole, ou les trois, de Cité Philo.
Alors je ne suis pas philosophe, je suis professeur de philosophie, je suis la présidente de l'association Philo Lille, puisque Cité Philo, le festival, est organisé par une association majoritairement composée de profs de philo. Et cette année, comme Thibaut d'ailleurs, on s'est occupé plus particulièrement et du thème « Ces corps que nous sommes » et de l'invité d'honneur Claudine Tiercelin.
Voilà, donc ce premier chapitre, on va dire, il est plutôt consacré à ce que vous proposez à des lycées, c'est bien ça ?
Oui, alors c'est au sein de Cité Philo. Moi, c'est vrai que j'ai rejoint l'équipe il y a 3 ans environ maintenant, et je m'occupe plus particulièrement des lycées, parce qu'en fait, il y a plusieurs volets dans la programmation de Cité Philo chaque année. Il y a certaines rencontres donc avec des auteurs, philosophes, chercheurs qui portent sur l'actualité éditoriale, sur des livres parus récemment, d'autres qui vont se rattacher à un thème en particulier qui change chaque année. Quelques rencontres autour d'un ou d'une invitée d'honneur, donc cette année c'est Claudine Tiercelin, et puis une dizaine de rencontres chaque année qui se passent dans les établissements scolaires, dans les lycées, et qui du coup touchent un public différent, puisque principalement, prioritairement, elles touchent un public d'élèves.
Et là, ouais, c'est tout au long de l'année pour les. Voilà, c'est pas. On essaye d'éviter en novembre. D'accord. Parce qu'il y a une grosse actualité pour le festival en novembre. Donc, dans les lycées, ça a commencé déjà en octobre.
En octobre, il y en a une. Ouais, et jusqu'au mois de mars cette année. Sans compter Compiègne, où là, ce sera encore plus tard.
D'accord. Donc, Karine Boquet, les choix des thèmes, j'imagine qu'ils sont innombrables. Les possibilités sont innombrables. Il y a des choses qu'on peut mettre en avant dans une année pour l'année d'après.
Oui, c'est-à-dire que l'association, une fois terminé le festival, donc pour le moment lillois, on va dire, de la métropole lilloise plus particulièrement, on fait un bilan en décembre, alors même que l'édition continue sur Amiens. Et en fait, on se réunit entre nous, les membres de l'association, les sympathisants, et puis chacun porte un thème, enfin chacun, non. Certains portent un thème ou un invité d'honneur, on en débat, on en discute, on propose une liste, on commence à travailler à des sous-thèmes, à des invités. Et puis ensuite, il y a un vote, c'est une association, donc il y a un vote. Et ce vote ensuite est soumis à notre conseil scientifique qui, en général, valide, nous donne des conseils d'invités, etc. Et donc, on commence vraiment la préparation du festival de novembre à partir de février, une fois qu'on a notre invité d'honneur et notre thème. Et en parallèle, on construit l'actualité éditoriale, puisque c'est un troisième thème aussi important du festival.
Voilà, donc on peut dire que le thème est relativement universel. Là, il y a le corps, bon, c'est ici, très large. Par contre, il est nourri, alors, soit de références au passé, notamment du passé de la philosophie peut-être, mais aussi d'actualité autour du corps.
Voilà, c'est-à-dire que là, la volonté cette année, c'était véritablement d'ausculter ce que sont nos corps actuellement, alors à la fois les corps individuels, avec toutes les questions qui se posent au niveau du droit, les questions juridiques, les questions de biologie aussi, de science, et puis la question des luttes, le corps politique, c'est quoi faire corps aujourd'hui, la question du corps qui a investi quand même des champs de lutte dans les questions du genre, du care, de l'écoféminisme, etc. Donc c'est vraiment un diagnostic les états de nos corps aujourd'hui, depuis l'éclairage juridique, scientifique. Donc oui, c'est vraiment les recherches actuelles, les états de nos corps aujourd'hui.
Est-ce qu'il y a eu un moment où on avait vraiment distancié le corps et l'esprit ?
La grande question philosophique, c'était le rapport entre le corps et l'esprit. Et évidemment, l'esprit était toujours valorisé au détriment du corps. Donc, dans l'histoire de la philosophie, le corps était largement notre part animale. Et l'esprit, la partie spécifiquement humaine. Alors, je veux pas être exhaustive ou m'avancer trop, mais finalement, la grande exception dans cette histoire de la philosophie, c'est quand même Spinoza. Hein. Spinoza qui, effectivement, ne faisait de l'esprit, finalement, que le reflet du corps, et le corps aussi, le reflet de l'esprit, et qui, on a parlé pendant longtemps, maintenant on n'utilise plus cette expression, mais du parallélisme de l'âme et du corps. Mais Spinoza, c'est quelqu'un qui a vraiment revalorisé le rôle central du corps pour le vivant et pour ce vivant aussi qu'est l'homme.
D'une certaine manière, est-ce qu'il n'y a pas eu une forme de mépris pour le corps et notamment pour le travail physique avec des salaires, j'allais dire ridicules, mais pas forcément à la hauteur du travail fourni pour les travailleurs manuels, par exemple.
Oui, bien sûr. Et la philosophie valorisait aussi, bien sûr, dès l'Antiquité, le loisir, le travail intellectuel. Et on était dans des sociétés, dans l'Antiquité, où l'esclave était le travailleur et l'homme libre, celui qui pensait, et le citoyen. On a quand même des penseurs qui se sont beaucoup intéressés au corps, des philosophes qui ont retrouvé l'importance du corps. Alors évidemment, par exemple, Marx, avec l'exploitation, la réification du travailleur. Je pensais aussi, par exemple, à Simone Veil, qui, professeur de philosophie, par exemple, a pris un congé d'un an pour travailler à l'usine, et pour justement expérimenter ce qu'était vraiment le travail physique, l'épuisement, pour donner une consistance à ses analyses sur le travail, qui est une notion absolument centrale chez elle.
Alors c'est vrai que les féministes ont beaucoup modifié le sens des relations humaines, hommes-femmes, bien au-delà dans la société, la présence, la mise en valeur d'une certaine manière, la considération moins pour les femmes. Est-ce qu'il va falloir aussi, pour les travailleurs manuels, qu'ils s'organisent en société d'une certaine manière pour revaloriser leur rôle, leur fonction et leur nécessité d'exister?
Ce qu'on voit effectivement depuis les gains dans les luttes ou les réussites, les victoires dans les luttes, c'est effectivement de pouvoir justement faire corps et d'être militant. Donc il y a beaucoup de combats à mener et on en a parler évidemment récemment avec la réforme des retraites. Évidemment, quand on arrive, qu'on a travaillé manuellement ou physiquement toute sa vie, évidemment, ça n'a pas de sens de partir en retraite au même âge que d'autres qui ont eu d'autres tâches affectives et sans doute moins épuisante et qui n'engage pas effectivement l'espérance de vie, par exemple. Donc oui, il y a beaucoup de luttes à mener.
Et j'imagine qu'à haut niveau, il y a une sorte, pas de dictature, mais de prise en main de l'ensemble de la société par des gens qui sont plutôt des intellectuels que par des manuels.
Je sais pas, une prise en main, c'est-à-dire une...
Ça veut dire que c'est eux, en fait, qui décident des règles et de qui sera considéré ou pas.
Ouais, alors moi je pense que là la prise en main, elle est pas tellement faite par des intellectuels, mais plutôt par des gestionnaires ou des comptables qui calculent en termes de coûts. Mais j'ai l'impression que les intellectuels ou que les philosophes quand même qui travaillent par exemple sur la question du travail, du corps, de l'exploitation alertent plutôt sur des décisions qui sont prises et qui engagent la société. L'année dernière, oui, on avait par exemple Dominique Méda qui avait fait la conférence inaugurale et qui est une intellectuelle et qui, justement, travaille beaucoup sur le corps des travailleurs en tant que sociologue et qui n'est pas du tout, justement, dans le discours politique ou économique qu'on peut entendre sur ce qu'est un corps valorisable économiquement.
Voilà, donc ce corps, il en sera question pendant tout cette édition Cité Philo, donc avec des croisements possibles entre les discussions, les films, les conférences, les débats. Peut-être qu'on peut présenter votre invité d'honneur.
Oui, volontiers. Alors, cette année, donc, notre invitée d'honneur, c'est Claudine Tiercelin, qui est une philosophe qui enseigne, enfin, qui a une chaire de métaphysique et philosophie de la connaissance depuis maintenant plus de 10 ans, 12 ans, je crois, au Collège de France, qui a une œuvre très importante et très reconnue, même sur le plan international, et à laquelle il nous importait de faire une place dans notre programmation. Alors, pour présenter un petit peu son travail, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé à une tradition en philosophie qu'on appelle le pragmatisme, notamment un auteur qui s'appelle Charles Peirce, un philosophe américain de la fin du 19e siècle qu'on connaît pas forcément encore beaucoup dans le grand public qui s'intéresse à la philosophie en France en tout cas. Je me demandais tout à l'heure, je me posais la question en préparant un petit peu cette émission, est-ce qu'il fait partie du programme des auteurs de Terminal dans la dernière version du programme je me disais bien que je m'en souvenais pas. Effectivement, il n'en fait pas partie. Donc, elle a travaillé sur cette tradition. Elle a beaucoup aussi travaillé sur ce qu'on appelle la philosophie de la connaissance. Donc, qu'est-ce qui distingue une connaissance d'une croyance? À quelles conditions on peut considérer qu'un discours ou qu'une théorie est vraie? Est-ce que la connaissance ou la vérité se pense tout à fait de la même manière dans le discours ordinaire, dans les domaines scientifiques? Est-ce qu'il y a d'ailleurs une unité de la vérité ou de la connaissance scientifique? Et puis, je dirais que l'autre pan très important de son travail, c'est la métaphysique. Alors, c'est un mot qui peut faire peur, et puis qui peut sembler remonter à des... Voilà, évoquer des vieilles lunes en philosophie, du Moyen-Âge ou d'époques dépassées. Voilà, en philosophie, on apprend souvent, parfois déjà en terminale, que la métaphysique, voilà, d'une certaine façon, ça s'arrête ou ça devient impossible à partir de Kant. Y a des gens aujourd'hui qui font de la métaphysique, qui font de la recherche en métaphysique, qui prétendent à une forme de vérité ou de connaissance en métaphysique. Il y a toute une actualité de ces recherches-là. Et Claudine Tiercelin est une figure importante sur ce terrain-là. On dialogue avec des chercheurs un petit peu partout dans le monde. Elle défend une conception de la métaphysique qui est en dialogue avec les sciences. Elle se pose des questions, par exemple, sur le statut de la réalité, ce que les théories scientifiques nous parlent vraiment de la réalité telle qu'elle est ou simplement de la réalité telle qu'on l'aperçoit. Et elle cherche à montrer qu'en fait, ces questionnements qui peuvent paraître très techniques ou très spécifiques, en fait, ils sont sous-jacents à beaucoup de problèmes assez ordinaires auxquels on est tous confrontés sans qu'on s'en rende forcément compte, mais simplement dans nos façons de parler habituelles qui souvent impliquent une métaphysique implicite, c'est-à-dire une certaine conception de ce que c'est que la réalité, de la façon dont on peut en parler, dont on peut la désigner. Voilà, c'est...
Et donc, j'imagine qu'il y a beaucoup de courants de pensée en philosophie. Est-ce que, au travers de ce festival qui est récurrent chaque année, etc., vous donnez un éclairage spécifique à un courant plutôt qu'à un autre pour justement montrer cette grande diversité et comment, sur 10 ans, 20 ans, tout ça se complète dans le monde de la philosophie?
Pas forcément des courants philosophiques. On essaye de varier évidemment les thèmes. De varier les invités, c'est pas suivant les sujets, c'est pas toujours non plus forcément évident. Mais par exemple, là, c'est un pari hein, cette année. Thibaut en parlait. Invité d'honneur, nous avons eu des invités d'honneur plus connus du grand public, Jacques Rancière, par exemple. Voilà. Et là, on avait cette proposition d'amener devant le public quelqu'un qui n'est pas du tout connu du grand public, qui n'est pas sur les plateaux télévisés pour commenter l'actualité, etc. Mais on s'est dit que, par exemple, c'était un éclairage très différent de ce qu'avait fait Cité Philo depuis très longtemps, en fait. Hein. Mais que c'était important parce que la question de la métaphysique, comme tu le disais pour terminer, sans qu'on s'en rende compte, nous faisons de la métaphysique, donc sans le savoir, que nous faisons de la métaphysique quand tout à coup on se demande, mais je sais pas, qu'est-ce qui me prouve que j'existe bien, que je suis bien réel, que je suis pas en train de rêver, que c'est bien la réalité. Tout ça, ce sont des questionnements philosophiques et métaphysiques que nous avons tous. Et donc, nous avons fait le pari, effectivement, de se dire, bah voilà, ces questions-là, on va les porter avec la référence à l'heure actuelle, pas seulement en France, hein, mais sur ces questions métaphysiques. Donc, je dirais pas des courants, mais on essaye quand même de varier les choses. Par exemple, entre Claudine Tiercelin cette année et l'année dernière, un pays invité d'honneur, l'Ukraine, en guerre, vous voyez, il y a le grand écart. Donc voilà, on essaye de varier les éclairages. Et je disais tout à l'heure en commençant, nous sommes une association, donc il ne faut pas se leurrer, c'est que nous allons, nous, membres de l'association, vers ce que nous aimons, vers ce que nous connaissons, vers ce que nous avons envie de partager. Donc c'est sûr que, voilà, on fait avec, nous faisons avec nos forces et avec nos désirs, et donc il y a forcément des biais. Hein.
Alors, nous avons prévu de parler de l'enseignement de la philosophie au lycée, on va résumer au lycée, peut-être on pourrait descendre en dessous, hein, à voir, parce que la philosophie, finalement, tout le monde en fait un peu plus ou moins à quelque niveau que ce soit dans l'enseignement, dans la pédagogie. Est-ce que ce qui est enseigné au lycée est représentatif, on va dire, de l'ensemble de la philosophie actuelle, ou est-ce que c'est vraiment un choix qui est très particulier et réservé à un public voilà, qu'il faut mettre peut-être en appétit, peut-être en veille par rapport à ce qu'il va découvrir par la suite?
Alors, j'aurais tendance à dire que les programmes en philosophie tels qu'ils existent, il y a eu une réforme en 2020, mais les nouveaux programmes sont grosso modo dans la continuité des précédents, ils sont quand même assez ouverts et donc ils permettent aux différents professeurs de les aborder à leur façon. Enfin, ils sont pas, il y a des notions, le travail, la vérité, la liberté, le bonheur, la justice, etc. Mais chaque professeur les aborde comme il le souhaite et en fonction de ses intérêts, de ses options philosophiques. Après, bon là, c'est une opinion, mais j'ai tendance à penser que cette ouverture, elle peut parfois produire, comme on se dit, bon, c'est une année, beaucoup d'élèves ne feront pas forcément de philosophie ensuite dans leur cursus d'études, alors on va leur donner certaines bases, leur parler de certains textes qu'on considère comme incontournables, et donc paradoxalement, cette ouverture des programmes, elle peut aussi avoir pour effet que dans l'intérêt de nos élèves, on réduise un petit peu ce dont on parle en se disant on va vraiment miser sur l'essentiel, ces textes-là, ces auteurs, ces concepts-là, il faut absolument qu'ils en aient entendu parler. Et de ce point de vue-là, alors par exemple les rencontres de Cité Philo dans les lycées, elles ont aussi l'intérêt justement d'ouvrir à d'autres types de discours philosophiques, d'autres manières d'appréhender la réflexion philosophique, parfois plus en prise effectivement avec des questions d'actualité comme on l'évoquait tout à l'heure sur le corps, qui sont peut-être, voilà, il serait peut-être un peu plus aventureux du point de vue des exigences scolaires, de l'examen du bac, tout ça, de les aborder pendant le fil de l'année dans le cadre du cours. Mais là, avec ce moment de respiration qu'est la rencontre avec un invité, une invitée, chercheur ou chercheuse qui vient parler de son travail, ça permet de sensibiliser aussi les élèves à une autre manière d'aborder la philosophie. On retrouve des notions qui sont celles des programmes scolaires, mais abordées d'une façon peut-être un petit peu différente.
Oui, et puis si je peux ajouter quelque chose pour compléter ce que tu disais, c'est que au lycée, l'élève est devant un professeur de philosophie, et ce professeur de philosophie est rarement un philosophe. Et donc là, il y a une rencontre avec un philosophe. Ça peut être aussi un historien, éventuellement un sociologue, mais en général, c'est un philosophe. Et donc, de rencontrer véritablement un auteur. Et quand les élèves étudient dans l'année des textes, le plus souvent, ce sont des textes d'auteurs morts. Et là, ils ont quelqu'un de vivant qui fait de la philosophie aujourd'hui et qui a effectivement quelque chose à dire sur tel ou tel sujet. Et donc les échanges sont, puisque les rencontres sont préparées en amont avec le professeur, sont souvent intéressants en fait. Mmh. C'est une autre approche de la philosophie, et je souligne que dans le programme cette année, c'est pas toujours le cas, mais le 6 novembre, on a une séance jeune public. Avec des enfants, à la médiathèque Jean Lévy, de 10h30 à 12h le 6 novembre. Donc voilà, là, on fait, on essaye d'initier à la philosophie aussi dès le plus jeune âge.
Voilà, donc dans le système scolaire, on va dire, au lycée, pour certains élèves, il y a un enjeu de diplôme, donc à bachoter, on va dire, de la philosophie pour avoir une note, et puis l'importance de la philosophie en tant que structuration de la pensée ou en tant qu'éveil à des intérêts qui dépassent le nombrilisme du jeune ou même de la société dans laquelle il est enfermé, c'est une ouverture pour ces jeunes. Donc comment on peut concilier, j'allais dire, le plaisir et le résultat d'un examen qui est quand même important au niveau du bac, par exemple?
Moi, je pense que la philosophie, en terminale ou maintenant aussi en première, hein, d'une certaine manière, quand on est prof de philo, on a la part belle parce que le programme, il y a un programme, hein, le désir ou la raison, enfin la politique, l'État, etc. Ce sont le temps, ben, ce sont des questions qui les intéressent en fait. Hein. Donc, on n'a pas de difficultés a priori pour voilà les intéresser sur pourquoi est-ce qu'on peut désirer quelque chose qui va nuire, est-ce qu'il faut accepter ses désirs, pourquoi à 18 ans j'ai l'impression que le temps passe et que je n'ai pas de temps à moi, c'est quoi occuper le temps, c'est quoi... Donc ce sont des questions qui les intéressent. Donc après évidemment toutes ces questions qu'on a en classe, ces réflexions qu'on a en classe, ces lectures, bien sûr que ça va être sanctionné par un examen, mais je dirais que pour la plupart de nos élèves, maintenant l'enjeu avec la réforme des examens, c'est plus tellement le bac en lui-même, hein, mais c'est en amont le fait de pouvoir remplir les rubriques de manière positive pour eux, pour leurs études, et donc ces Parcoursup, hein, qui commencent en janvier. Donc eux, la pression, elle est souvent, c'est même pas joint l'épreuve de philo et les autres épreuves, c'est vraiment, effectivement, ça se joue très vite, hein, puisque en mars, les dossiers Parcoursup sont constitués en fait.
Est-ce que les parcours d'étudiants en philosophie sont très empruntés? Est-ce qu'il y a une vraie demande? Est-ce qu'il y aurait besoin peut-être de mobiliser davantage d'élèves pour accéder à ces études? Est-ce qu'il y a des besoins de société par rapport à la philosophie?
Je ne sais pas où on en est là à l'université. Au niveau, je crois que ça fluctue un peu. Il y a des années où les étudiants sont très nombreux, moins nombreux. On est en train de se défaire de quelque chose aussi. C'est qu'à une époque, on se disait que si on faisait de la philosophie, c'était pour devenir prof de philo. Bon, maintenant, c'est beaucoup moins effectivement le cas. Puis il y a des cursus doubles. Il y a des cursus sociologie, philosophie, etc. Mais sur la situation de l'enseignement de la philosophie dans le supérieur, en tout cas, c'est vrai que, à la différence d'autres pays, voilà, si on fait de la philosophie, on fait de la philosophie, mais la philosophie n'est pas forcément très présente dans les autres, comment dire, cursus suivis, en fait. Il doit y en avoir sans doute en histoire de l'art, faire de la philosophie, mais ça reste quand même un petit peu confidentiel, je sais pas ce que tu en penses.
Oui, puis par rapport à ce qu'on évoquait précédemment, c'est vrai qu'il y a, un aspect, peut-être un paramètre supplémentaire concernant l'année de terminale, c'est que c'est une matière qui, en tout cas pour la majorité des élèves, ne les concerne que pendant un an. Donc, il y a plusieurs enjeux. Il y a le résultat à l'examen et l'orientation sur Parcoursup. Il y a cette voilà, le fait de comprendre l'intérêt en soi, indépendamment de la matière comme moyen de réussite à l'examen, mais de la discipline, et puis éventuellement de découvrir une discipline qui pourra les intéresser au point qu'ils poursuivent des études supérieures dans ce domaine-là. Donc voilà, c'est vrai que peut-être aussi que, je le dis de façon un peu prosaïque, mais quand on entreprend de faire des études d'histoire-géographie ou de mathématiques, on a un petit peu plus de temps pour y réfléchir, alors que la philosophie, parfois même voilà, après quelques mois de cours en terminale, ils ne sont encore pas tout à fait sûrs de très très bien comprendre quels sont les enjeux de la discipline.
Est-ce que dans tous les pays, on enseigne la philosophie ou est-ce que c'est plutôt l'apanage de sociétés démocratiques, occidentales ou orientales? Est-ce qu'on la retrouve un peu partout dans le monde?
Alors que je sache, mais je dis peut-être une bêtise, en Europe, c'est sûr, c'est en France et en Italie que c'est une matière obligatoire du tronc commun en secondaire. Dans les autres pays, je crois que c'est une option. Je crois qu'il y a que, et si je dis pas de bêtises, en Italie, ça concerne les trois années de l'équivalent du lycée chez nous. Ce qui est intéressant de constater de ce point de vue-là, c'est que la façon de l'enseigner peut être très différente. Je crois savoir, par exemple, que dans certains pays anglo-saxons, mais notamment aux États-Unis, que cette association qu'on fait assez spontanément en France entre la philosophie et les disciplines littéraires, il y a quelques années encore, le plus d'heures de philosophie, c'était en série L littéraire, et on avait moins d'heures en scientifique, parfois ils étaient tout à fait détrompés, heureusement, mais parfois les élèves à profil plus scientifique arrivaient un petit peu en traînant les pieds en s'imaginant que ce n'était pas pour eux. Bon, il y a des pays où la représentation de la discipline est tout à fait différente. Après, associer ça sans donner particulière au caractère plus ou moins démocratique des sociétés, c'est un peu difficile. Ce qu'on peut dire, c'est que historiquement,
la liberté de penser.
Oui. Voilà. L'attrait, la valorisation de la philosophie, enfin qu'on pense au XVIIIe siècle, à la Révolution française, enfin le fait de valoriser l'usage de la raison, le fait de valoriser l'autonomie du jugement, enfin c'est plutôt caractéristique de sociétés qui émancipées ou qui cherchent à le devenir. Mais après, je voudrais pas dire de bêtises, donc.
Donc, dans vos propositions par rapport aux enseignants, j'imagine que c'est préparé bien en amont, parce que arriver au moment du festival, tout doit être cadré, organisé. Comment on peut encore vous rejoindre si on est une classe, un professeur ou je sais pas.
Ah, mais là, par exemple, on a eu des appels récemment de professeurs, parce que Cité Philo entre dans les lycées avec des collègues qui font appel à nous parce qu'ils ont envie, ce sont les professeurs hein, qui ont des envies de faire partager une lecture qu'ils ont eue à leurs élèves, et donc d'inviter quelqu'un, donc ils nous font des propositions, et nous offrons un soutien logistique, financier, pour monter ces rencontres. Mais là, par exemple, on a aussi chaque année, et là récemment, ça s'est encore manifesté, des collègues qui nous appellent et qui veulent venir avec une classe à une rencontre de Cité Philo, donc des collègues qui ont repéré dans le programme, ça ce serait bien avec mes élèves, c'est un jour de la semaine, et donc voilà, et même les professeurs peuvent ne pas nous prévenir et venir avec une classe. Après, évidemment, si on vient avec 35 élèves, c'est mieux qu'on le sache, parce qu'on peut leur réserver des places et pas qu'ils se retrouvent. Mais donc voilà, on rentre dans les lycées, mais les lycéens viennent aussi nous voir avec leurs professeurs, ça c'est certain.
Donc le site citéphilo.org reprend tous les éléments de la programmation, donc on peut renvoyer les gens sur ce site pour se sentir en appétit sur un événement plutôt qu'un autre.
Exactement.
Et juste une petite chose qu'on n'a pas précisé, je crois, parce qu'elle va peut-être de soi pour nous, mais pas forcément pour les auditeurs, c'est que toutes nos rencontres sont gratuites, elles sont ouvertes à tous, sans réservation pour la plupart, à l'exception des rencontres qui ont lieu à Sciences Politiques, où il faut simplement réserver à l'avance sur Internet, mais qui sont également gratuites et ouvertes à tous, dans la limite des places disponibles.
Oui, et d'ailleurs, les rencontres dans les lycées, en fait, avec tout ce qui est problème de sécurité, etc., pour les rencontres dans les lycées, nous mettrons en amont de la rencontre, au cas par cas, les conditions pour le public extérieur d'accès, en fait.
D'accord. Donc, on va redire que c'est du 1er au 29 novembre. Ça fait un mois qui va être riche, j'imagine, d'échanges aussi. Est-ce que certains de ces échanges seront filmés et en ligne quelque part, qu'on les revoit ?
Alors, nous ne les filmons plus depuis l'année dernière, parce qu'en fait, les filmer n'apportait pas grand-chose. C'était très statique. Et les gens qui nous disaient qu'ils écoutaient, ils écoutaient effectivement en faisant autre chose. Et ils ne regardaient pas la personne qui était filmée en plan fixe. Donc, nous ne filmons plus. Ça n'avait aucune plus-value, aucun intérêt. Et donc, mais nous enregistrons la plupart des rencontres. Et dès que possible, elles sont mises en ligne. Par des stagiaires qui travaillent avec nous pour les enregistrer, puis ensuite pouvoir les mettre en ligne pour qu'elles soient très vite entendable.
Alors j'imagine que vous avez aussi des personnes dévouées qui vous aident à organiser ce festival. Au-delà des enseignants, il y a sans doute aussi des étudiants qui sont intéressés.
Ah ben, ils sont indispensables et donc oui, on a une équipe bien sûr de bénévoles et cette équipe de bénévoles elle est absolument indispensable en novembre mais aussi le reste de l'année hein, parce que ce sont des étudiants, pour la plupart, mais pas seulement, il y a aussi des personnes retraitées, et donc qui vont chercher des invités en gare, qui les amènent à l'hôtel, qui les conduisent sur le lieu de la rencontre, qui papotent, qui assistent aux conférences, qui passent le micro. Ce sont, quand vous demandez la parole, puisque sur une rencontre de 2 heures, la dernière demi-heure, voire les 3 quarts d'heure, les 3 derniers quarts d'heure de la seconde heure sont données au public hein, pour un échange avec l'auteur, bah, les petites mains qui vous passent les micros gentiment ou qui vous arrachent le micro si vous êtes trop long, eh bien, ce sont des bénévoles et la plupart du temps des étudiants et ils sont vraiment formidables et pour nous, ils sont absolument indispensables.
Voilà. Est-ce que vous avez encore des besoins ? Faites appel à des...
Nous avons une rencontre là dans une petite demi-heure avec des bénévoles.
Très bien.
Justement avec des bénévoles pour faire le point, pour voir le planning. Et donc, bien sûr, si vous voulez venir nous aider, eh bien, envoyez-nous un message par le site et vous êtes les bienvenus.
Bien, merci Karine Bocquet pour cette présentation. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un autre axe qui sera sur le cinéma. Merci Thibaut Hautevert donc pour ces précisions, notamment pour ce domaine avec l'éducation nationale. Et puis, bon festival.
Merci beaucoup de votre accueil.
Merci. The sound high in the air. What is this city over the mountains? Who's on the other side of you? Who is the third walking beside? The lone one.